Bonjour, chers amis auditeurs. Alors, nous commençons aujourd'hui une nouvelle émission qui s'intitule Avoir château dans le Lot. Et nous commençons tout simplement par le château de Sennevières, où nous sommes accueillis aujourd'hui par Patricia et Patrick de Braquillange. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Bonjour Patrick.
Bonjour et bienvenue.
Et nous sommes toujours en présence, avec grand plaisir, de Marie-Madeleine Rey. Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour à tous.
Voilà, avec Marie-Madeleine, nous avons l'émission Église du Lot et le pendant Avoir château dans le Lot. Alors, je vais poser tout de suite une question, la question au niveau de l'historique du château, parce que c'est un très beau château quand nous arrivons, Patrick. Quel est l'historique? Nous voyons des panneaux datant ce château du 12-13e, mais je pense qu'il y a une histoire dans la France et une histoire dans le Quercy assez particulière.
Voilà, alors, pour résumer un petit peu, donc ce château existe tel qu'il est, c'est une transformation au moment de la Renaissance, après les guerres d'Italie, mais le point de départ, c'est une grotte naturelle, comme on en a partout dans notre vallée du Lot et sur nos causses, à cause de la géologie karstique, et donc dans un trou qui se trouve encore tout à fait accessible, on va dire, en tout cas existant encore, on mentionne la présence ici, en 763, de Pépin le Bref, qui descend de Franconie, c'est-à-dire l'Allemagne, là-haut, et qui est à la poursuite du duc d'Aquitaine, qui s'appelle Gueffier, qui avait également une grotte fortifiée à quelques kilomètres d'ici, au-dessus de Cajar. Et donc c'était des repères, on appelait ça plutôt des repères, et bien évidemment, au bout d'un moment, quand vous vivez dans une grotte, c'est sympathique, mais enfin, il faut faire autre chose. Et ils ont profité de la position physique du Lot sur du château sur le au-dessus de la rivière, un pic de 60 mètres à peu près, et ils en ont profité pour commencer à construire à partir du 12e, 13e siècle les bases d'un château fort. Et c'est à partir de 1492, les Français vont partir avec François Ier. Enfin d'abord Charles VIII, puis Louis XII, puis François Ier, on va aller faire le tour de l'Italie, et là-bas, les Français découvrent une renaissance italienne en plein essor, qui a déjà fait beaucoup de réalisations, et c'est en voulant copier tout ça que François Ier va essayer d'attirer auprès de lui des grands artistes, et vous savez qu'il a amené au Clos Lucé, près d'Amboise, Léonard de Vinci et soi-même.
Tout à fait.
Bon, et autour, il y avait évidemment pas que les grands leaders, les plus connus, il y avait des tas d'artistes qui suivaient. La Renaissance italienne a presque 100 ans d'avance sur la nôtre, ce qui fait que pour ceux qui en vivent en termes artistiques, les architectes, les peintres, les sculpteurs, etc., ben, y a un moment où en Italie, il n'y a plus de boulot parce que les plus grands seigneurs, ducs, princes ont fini. Le Vatican, on va pas faire trois fois le Vatican, même si on s'appelle le pape. On en a fait un, c'est déjà pas mal. Et donc ça va se traduire par la sortie de l'Italie de tous ces grands artistes que vous allez voir circuler dans toute l'Europe. Quand vous baladez en Europe centrale, on y est allé plusieurs fois avec nos enfants, vous allez jusqu'en Autriche, vous allez en Allemagne, vous allez en Espagne, partout, vous avez le même mouvement avec des différences qui sont tout simplement liées à ce que vous pouvez trouver sur place pour copier un château et construire un château. Je prends l'exemple, j'ai des galeries, une galerie à Cologne, ben chez moi, elle est faite avec du calcaire, parce que c'est ce que j'ai autour. Si vous me demandez de construire un château avec des colonnes en grès rose, ben m'excuse, il y en a pas, donc ça passera pas. Donc c'est les limites techniques là-dessus. Donc ça, c'est cette renaissance. Et puis après, le château, en termes de construction, il n'y a plus grand-chose, ce n'est que de la maintenance depuis 200 ou 300 ans, quoi. Mm-hmm. C'est ce que mes parents ont fait et que nous continuons de faire avec mes frères et sœurs.
Très bien, merci pour ce bref historique qui est très intéressant. Donc vous parliez de la Renaissance, mais le château par la suite a connu d'autres modifications?
Donc,
ou pas
totalement, c'était plutôt des aménagements par la suite. D'abord l'entretien. Vous savez que on a, je rappelle ça pour les plus jeunes qui apprennent pas toujours tout ce qu'il faut à l'école. Je prends le dernier exemple difficile, la guerre de 40. On se rend pas compte, mais qu'est-ce qui part à la guerre? Ben, c'est les hommes, parce que ils sont un peu plus costauds que les femmes. C'est pas péjoratif, mais c'est comme ça. Et donc quand ils s'en vont, celui qui était charpentier, couvreur, qu'est-ce qu'il va restaurer? Personne. Eh bien, c'est l'idée qui a poussé Malraux, après la guerre, dans les années juste avant l'arrivée de Gaulle, de préparer ce qu'on appellera les monuments historiques, qui était l'idée que les soldats, ceux qui sont pas morts ni blessés étant revenus, on va tout de suite leur donner du boulot. C'est un plan de relance, mais façon Malraux, pour dire, allez, vous saviez faire avant, ben remettez-vous au boulot, et puis il y a 4 jeunes là qui arrivent, vous allez les prendre avec vous, et on va redémarrer des constructions et de l'entretien. Le château ici a beaucoup souffert parce que pendant 5, 6, 7, 8 ans, comme partout, eh ben, si vous avez un bout de toit qui saute en janvier 40, eh ben, il n'est pas restauré avant 50, hein, mm-hmm. Simplement parce que il n'y a plus personne.
Tout à fait. Quand nous sommes arrivés tout à l'heure avec Marie-Madeleine, nous sommes entrés dans le château et vous nous avez emmenés immédiatement sur cette magnifique terrasse dont j'avais souvenir avec votre papa dont nous parlerons tout à l'heure. On voit tout de suite que il y a beaucoup de châteaux autour de Sennevières et qu'il y avait c'était quand même stratégique. Comment vous pouvez replacer Sennevières dans ce contexte?
Alors, le contexte général chez nous, c'est les causses, hein, les causses du Quercy. On a un parc naturel depuis quelques années, mais sur un plan géologique, si on prend les grands mouvements, on est traversé le Lot et la deuxième rivière la plus longue de France, 485 km, du Mont Lozère jusqu'à Villeneuve-sur-Lot. Eh bien, cette rivière, elle traverse une zone qui s'appelle les Causses, que vous retrouvez jusqu'en Aveyron, au Quélard, au-dessus de Montpellier. Et géologiquement, c'est quoi? C'est des plateaux calcaires. Et lorsqu'il pleut, l'eau ne s'écoule pas tout de suite comme lorsque vous êtes dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, on a l'habitude de dire. Ben ici, ça coule pas tout de suite, ça va forer des trous. Et quand vous regardez la documentation du parc naturel des Causses du Quercy, vous verrez, on s'est amusé à couper en tranches les causses. Vous voyez des trous partout, avec de l'eau qui circule sans arrêt, mais pas forcément le jour où vous passez. On peut évoquer la plus longue bataille sans doute ici, enfin occupation on va dire, la guerre de 100 ans, ça a duré je sais pas combien, 200 ans facile. Bah, quand vous vous baladez avec 50 chevaux et 200 soldats, vous avez une préoccupation obligatoire, physique, c'est qu'il faut de l'eau, il faut boire. Si vous restez sur vos causses là-haut, bah, vous n'y arrivez pas. Et c'est pour ça que si vous regardez les vieilles cartes d'autrefois, on a les cadastres de Napoléon en ligne maintenant, vous voyez très bien le long de la rivière des tas d'endroits où le Lot sinue parce qu'il y a des rochers, ça fait des falaises comme à Saint-Cyr-la-Popie, comme chez moi, comme Calvignac, etc. Et on avait sur ces falaises la bonne occasion de faire des plateformes militaires parce que ça me permet de voir, de surveiller. Et en même temps, si vous voulez attaquer, ben ça devient difficile. Et le vrai sujet, c'était d'abord le long de la rivière, et c'est là qu'il y en a le plus. Et quelquefois, au milieu des causses, ben il fallait qu'il y ait des sources pas loin, parce que sinon vous tenez pas.
Et donc, quels sont les châteaux? Je ne connais pas forcément très très bien ce coin du Lot. Quels sont les châteaux avoisinants à celui de Sennevières?
Alors, si vous voulez, dans les châteaux de la même période, vous avez le château de Larnagol, qui est juste à côté. Vous avez celui de Salvagnac-Cajard. Il y avait autrefois, mais il est détruit, le château des Cardaillac au-dessus de Saint-Cyr-la-Popie, juste au-dessus de l'église. Et un gourdon de Sennevières a épousé la fille d'à côté pour pouvoir bloquer un petit peu le passage. Et sinon, notre grand parrain, j'allais dire, c'est Galieux de Genouillac, qui était le seigneur d'Assier. Assier se trouve sur les Causses, entre Sennevières et Gramat, si vous voulez, et c'est là-bas que se trouve ce cousin du seigneur de Gourdon, et François Ier va le nommer Galieux, grand maître de l'artillerie, et c'est lui qui va faire la victoire militaire de Marignan. Et donc il emmène ses copains, ses cousins, tout le monde en profite, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'influence. On est allé sur place, on a vu, ça nous a plu, on ramène un peu d'argent, pas forcément gagné honnêtement, on va le dire, mais c'était le fruit des butins, et c'est ça qui va permettre de copier ce que l'on a vu à l'extérieur.
Très bien, merci de cette précision. De la terrasse, nous apercevons un château en ruine dont vous m'avez parlé rapidement. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots par rapport à cette vue ?
Oui, alors juste en face, sur ma terrasse, je vois tous les jours l'église magnifique de Calvignac, qui était très bien restaurée, et à côté, les ruines d'un ancien château. Et donc, il est positionné exactement comme nous, falaise d'un côté, village de l'autre. Il a été détruit, il appartenait à un moment au seigneur de Gourdon ici, mais c'était une famille un peu différente. Mmh. Et l'autre ruine, donc, c'est celle du château de Saint-Cyr-la-Popie.
Voilà, donc vous voyez de votre propre terrasse. Absolument. Vous-même. Absolument. Alors, ce château de Sennevières, actuellement, nous replaçons dans le 21e siècle, 20e, 21e siècle. Qu'est-ce qui s'y passe? Et vous avez quelques activités fort intéressantes, apparemment, et dont j'ai pu voir quelques images.
Alors, le château, pour sa période la plus récente, on va dire que c'est ma grand-mère qui a commencé à s'en occuper en direct, et mon grand-père est mort pendant la guerre en 43, et c'est donc mon père qui a pris très tôt, il venait juste de se marier, qui a pris la responsabilité de ce château en allant d'abord le faire classer monument historique. C'était donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, un plan de Malraux pour relancer la machine. Et la contrepartie des aides que l'État a données pour faire ces travaux, c'était justement l'ouverture à la visite. Donc c'est quelque chose d'assez ancien, mais la plupart des châteaux français, en dehors des châteaux de l'État, ont pu redémarrer grâce à ça. Et ça a donné l'idée d'ouvrir ses portes, alors qu'avant, bon, on pouvait toujours taper, sans doute que mes grands-parents l'ont fait, ont accueilli des gens, mais le côté un petit peu systématique s'est mis en place. Et puis après, mon père, comme il résidait ici assez souvent, et en tout cas pendant les saisons, a tout de suite participé. Quand il y a eu la création des offices du tourisme, il était à bord. Ça a permis d'aider à fabriquer pour les uns et les autres un petit programme de vacances. Alors à l'époque, c'était du papier, aujourd'hui c'est les réseaux sociaux et internet, mais on fait partie d'une chaîne de choses à voir, à faire, comme on dit, et vous avez retenu ce nom pour votre émission, c'est parfait.
Oui, et donc vous organisez également quelques concerts, voilà. quelques activités.
Alors, on a des activités un petit peu de spectacle. Il y a des chorales qui passent, il y a des concerts. C'est souvent un tout petit peu délicat pour nous, parce que la configuration du château fait que, en cas de pluie, j'ai pas beaucoup de place à l'intérieur. Je parle pas des normes récentes imposées par la grosse maladie du Covid, mais en temps normal, la grande salle couverte, elle fait 100 mètres carrés, vous voyez. Donc si vous mettez des concerts, bah, ça réduit un petit peu le nombre de clients qui peuvent y venir. On fait aussi des événements pour des entreprises, on en a eu encore deux ou trois cette année, c'est assez intéressant, et ça intéresse les entreprises justement après cette crise, parce que au lieu de se retrouver tout le temps au même hôtel, au même endroit, dans la même ville, eh ben ça permet aux entreprises de dire tiens, on va aller faire un petit tour dans le Lot, on peut faire du kayak, du bateau, du sport, de la marche à pied, souffler, puis travailler un peu dans la journée pour justifier quand même les dépenses. Donc voilà, c'est à peu près ça qu'on fait. Et pendant la saison, donc de juillet, août jusqu'à mi-septembre, jusqu'au jour du patrimoine, le troisième week-end de septembre, nous faisons systématiquement le mercredi soir des visites nocturnes, ce qui nous permet d'apparaître déguisé en pingouin avec des petites choses, et tous les petits enfants qui viennent ici régulièrement se déguiser, qui font la guerre, et on a pour les nôtres, les aînés à 12 ans qui commencent à faire la visite, elles embarquent les enfants des touristes qui sont avec nous, et pendant que les parents m'écoutent parler, ou mon épouse Patricia, et ben les jeunes font la visite toute seule, et c'est vraiment des très grands moments. On a quelquefois des petits bouts d'interview qui arrivent, c'est très drôle.
Alors, vous avez parlé de votre épouse, Patricia, Madame de Braquilange. Alors, j'ai cru comprendre que vous donnez un petit coup de main, et même un grand coup de main à votre mari pour aider justement à la mise en valeur de ce très beau château.
Oui, quand il y a des visites, quand c'est un petit peu la bourre, quand il y a des manifestations, on a fait des mariages, des repas, donc il faut organiser les tables, servir, et première fois, on s'est fait un petit peu avoir parce qu'on oubliait des clients. On n'avait pas trop le coup de main.
Et oui.
Et puis après, je peux vous dire qu'on n'oubliait personne. Donc, c'est un vrai métier parce qu'on apprend à regarder, à surveiller, à pas faire brûler les plats parce que là, il n'y a pas de sortie. Et puis voilà, on fait un petit peu, voilà, les visites nocturnes. On fait des pas mal de mariages. Bon là, avec la Covid, ça a été un petit peu ralenti, mais c'est aussi très sympathique d'avoir ces contacts-là. On a fait aussi la décoration florale pour les mariages, voilà. Donc on s'adapte un petit peu aux demandes, et puis voilà, c'est sympathique. On a des contacts extraordinaires avec.
Alors je profite de vous remercier d'ailleurs Patricia et Patrick parce que je pense que les auditeurs vont entendre quelque chose qui crépite, alors c'est le feu qui est dans la cheminée parce que nous sommes bien dans le château.
Voilà, il commence à faire un petit peu froid, surtout l'humidité. Donc, on a fait un petit feu pour se sentir bien, à l'aise.
Mais nous sommes très, très bien accueillis. Marie-Madeleine, je sens que vous voulez rajouter quelque chose.
Je voulais demander quelque chose à Madame de Braquilange. Vous faites des visites nocturnes en costume. Est-ce que c'est vous qui les avez fait, les costumes?
Alors, j'en ai fait deux. Deux que j'ai fait il y a plusieurs années. Voilà.
Puis on complète, on fait dans des boutiques ou sur internet, on trouve ça, et ça permet en fait d'avoir un choix important. La difficulté, si vous voulez, c'est avec les règles d'aujourd'hui, on peut pas le proposer aux clients. Sinon d'habitude, ils venaient costumés, et il y en a qui arrivent maintenant avec leur propre costume.
Ah, ça c'est très agréable.
Pièce et ils jouent la pièce comme nous, quoi. Donc et alors je voudrais aussi rajouter là-dessus que on n'est pas tous les deux seuls à faire ça. Mes frères et sœurs viennent régulièrement et chacun participe aussi régulièrement à ce genre d'animation, et ça nous permet de souffler un petit peu.
Oui, je m'en doute. Vous parliez tous les deux de la Covid. Est-ce que vous avez senti un changement, ou tout au moins vous avez senti une baisse au niveau de la fréquentation du château?
Alors oui, on a eu une baisse l'année dernière. Cette année, on va faire un tout petit peu moins encore, parce qu'on a eu une contrainte en pleine saison qui était de mesurer la jauge de 50 personnes. Alors je vous dis pas ce qu'il nous a fallu comme cerveau arriver à compter les personnes qui sont dedans, pas juste ceux qui sont rentrés, ceux qui sont sortis. Alors on a acheté des petits jetons de loto, et à chaque ticket, on vous donnait un numéro. Et vous étiez prié de me ramener le jeton. Mmh. Et certains sont partis avec les jetons, donc ils sont toujours dans le stock, si je puis dire.
Donc effectivement, un peu dur, oui, un petit peu difficile, je m'en doute. J'espère simplement que l'avenir sera nettement meilleur de ce côté-là. Alors, quand on parle des braquillanges, les braquillanges, la famille, on ne peut que se souvenir de votre papa. Qui a été, qui a œuvré pour ce château, tout comme vous le faites maintenant, mais qui lui a œuvré jusqu'à l'âge de plus de 100 ans, voilà, et qui est décédé le 7 août dernier. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelques mots sur cette famille, les Braquillanges?
Alors, écoutez, évidemment, nous tous, on lui doit beaucoup là-dessus, parce que il n'y avait pas juste la transmission, on va dire, patrimoniale. Il y avait, en fait, pour chacun de nous, et nos petits-enfants pareil, l'envie de copier le grand-père, parce qu'il était quand même assez sympa et dynamique. Et quand on le voyait bouger avec son petit groupe de visiteurs, alors peut-être pas jusqu'à 100 ans, mais il n'y a pas si longtemps que ça, 4-5 ans, il était encore à la manœuvre, et les jeunes étaient là en train de glandouiller, à regarder leur téléphone. Alors ça nous permettait de dire, regarde un petit peu grand-père, là il est en train de faire quelque chose d'intelligent, donc tu coupes le son et tu vas ratisser les feuilles, voilà.
D'accord. Et votre papa, oui, donc animait les visites guidées très très haute en couleur, si je me souviens bien.
Il avait le verbe haut, et il avait aussi une capacité que les gens adoraient, et c'était qu'il se mettait en scène. Je raconte souvent sa description de l'attaque de Cahors au moment de la prise de Cahors avec Henri IV. Henri IV est venu ici, il a couché au château, et le 30 mai ou le 29, ils sont partis là-bas, et papa, qui avait lu les textes de plusieurs historiens locaux assez connus, comme Étienne Beau, racontait la scène comme si vraiment il était à bord, il manquait la caméra, et il racontait qu'il fallait pas passer par le pont Valentré parce qu'il était bien défendu, mais par le pont Neuf qui était plus facile, et il a utilisé, Henri IV à ce moment-là, un pétard, un canon rempli de poudre, il y avait que de la poudre, mais qui fait les déflagrations, exactement le genre de dégâts que, comme on l'a en ce moment, on en reparle, l'attentat du Bataclan, c'est-à-dire c'est vraiment de l'explosion pure qui détruit tout sur son passage. Et donc ça, il excellait. Et papa était vraiment à la manœuvre, il manquait le cheval, quoi.
Oui. On se souvient aussi de ces mots très forts par rapport aux Anglais. Lorsqu'ils étaient présents, c'était assez... Madame de Braquillanges, voulez-vous rajouter quelque chose peut-être par rapport à Guy de Braquillanges?
Alors, ce que je veux dire par rapport à Guy et à sa femme... le cœur de cette maison, c'est la chapelle.
Oui.
Parce que mes beaux-parents et ma belle-mère en particulier nous ramenaient tous les soirs à la prière en famille. Donc mes enfants sont très marqués par ça. Et c'est ce qui fait que cette maison est aussi harmonieuse, parce que le centre, voilà, on nous ramenait toujours, elle nous ramenait tous les soirs là. Prière en famille, messe quand il y avait des amis prêtres, et la joie de cette maison vient de là.
Donc une famille très unie autour de cette chapelle. Et autour de la prière. Alors, écoutez, nous allons terminer cette première émission, Patricia et Patrick de Braquillanges, mais nous allons continuer par la visite, justement, de ce château, et nous allons voir également, et nous allons approcher cette belle chapelle qui, quand même, date du Moyen-Âge, si je ne m'abuse.
Oui, elle est, je voulais, autrefois, on était chrétien, il y avait ici que cette religion. Et donc, il y avait une chapelle dans tous les châteaux. Et celle que vous allez voir a été désaffectée, si je puis dire, pendant assez longtemps, puisque, lorsque Gourdon se convertit au protestantisme, il va construire un temple dédié, spécifique. Par conséquent, pendant toute cette période, on va dire, entre 1580, un peu avant, même 1560, jusqu'à la Révolution, la chapelle servait de salle de jugement.
D'accord.
Parce qu'elle était un peu cérémonieuse et tout. Et puis après, les paroisses commençaient à prendre leur essor. Et donc, c'est mes parents qui ont réactivé cette chapelle. Et chacun des enfants, comme vient de le dire Patricia, et petits-enfants adorent venir là. On a des belles soirées.
Magnifique. Bah, écoutez, merci Patricia et Patrick de nous avoir apporté tout ce côté historique pour le château de Sennevières. Merci Marie-Madeleine de nous avoir accompagnés. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission autour du château de Sennevières, mais cette fois-ci dans la visite un peu plus près et guidée de ce château. Au revoir Patricia et Patrick.
Au revoir.
Merci.
Et merci.
Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, Marie-Madeleine. Merci.